Aventure du baron de Münchhausen par Gottfried August Bürger, 1786, traduction de Théophile Gautier fils, 1857. Chapitre 11, sixième aventure de mer. Ayant terminé le récit de son voyage en Égypte, le baron se disposa à aller se coucher juste au moment où l'attention légèrement fatiguée de son auditoire se réveillait à ce mot de harem. On aurait bien voulu avoir des détails sur cette partie de ses aventures, mais le baron fut inflexible. Cependant, pour satisfaire aux bruyantes insistances de ses amis, il consentit à leur raconter quelques traits de ses singuliers domestiques, et continua en ces termes. « Depuis mon retour d'Égypte, je faisais la pluie et le beau temps chez le grand seigneur. Sa hôtesse ne pouvait vivre sans moi et me priait tous les jours à dîner et à souper chez elle. Je dois avouer, messieurs, que l'empereur des Turcs est de tous les potentats du monde celui qui fait la meilleure chair, quant au manger du moins, car pour ce qui est de la boisson, vous savez que Mahomet interdit le vin à ses fidèles. Il ne faut donc pas songer à boire un bon verre de ce liquide quand on dîne chez un Turc. Mais pour ne pas se pratiquer ouvertement, la chose n'en a pas moins lieu fréquemment en secret, et en dépit du Coran, plus d'un Turc s'entend aussi bien qu'aucun prélat allemand à vider une bouteille. C'était le cas de sa hôtesse. À ces dîners auxquels assistait habituellement le surintendant général, c'est-à-dire le mufti in partem salari, qui disait le bénédicité et les grâces au commencement et à la fin du repas, il n'était point question de vin. Mais lorsqu'on se levait de table, un bon petit flacon attendait sa hôtesse dans son cabinet. Un jour, le grand seigneur me fit signe de l'y suivre. Lorsque nous nous y fûmes enfermés, il tira une bouteille d'une armoire et me dit « Münchhausen, je sais que vous autres chrétiens, vous vous connaissez en bon vin. Voici une bouteille de Tokaï, la seule que je possède, et je suis sûr que de votre vie, vous n'en avez goûté de meilleure. » Sur quoi sa hôtesse remplit son verre et le mien, nous trinquâmes et nous bûmes. « Hein ?» reprit-il, « que dites-vous de celui-là? C'est du super fin, cela !»« Ce petit vin est bon, » répondis-je, « mais avec la permission de votre hôtesse, je dois lui dire que j'en ai bu de bien meilleur à Vienne chez l'auguste empereur Charles VI. Mille tonnerres, je voudrais que vous l'eussiez goûté. » « Cher Münchhausen, répliqua-t-il, je ne veux pas vous blesser, mais je crois qu'il est impossible de trouver de meilleurs tokai. Je tiens cette unique bouteille d'un seigneur hongrois qui en faisait le plus grand cas. Plaisanterie que tout cela, monseigneur, il y a tokai à tokai. Messieurs les hongrois, d'ailleurs, ne brillent pas par la générosité. Combien pariez-vous que d'ici à une heure, je vous procure une bouteille de tokai tirée de la cave impériale de Vienne et qui aura une toute autre figure que celle-ci ? Münchhausen, je crois que vous extravaguez. Je n'extravague point. Dans une heure, je vous apporte une bouteille de Tokaï prise dans la cave des empereurs d'Autriche et d'un tout autre numéro que cette piquette-là. Münchhausen, Münchhausen, vous voulez-vous moquer de moi? Cela ne me plaît point. Je vous ai toujours connu pour un homme raisonnable et véridique, mais vraiment, je suis tenté de croire que vous battez la campagne. Eh bien, que votre hôtesse accepte le pari. Si je ne remplis mon engagement, et vous savez que je suis ennemi juré des hâbleries, votre hôtesse sera libre de me faire couper la tête, et ma tête n'est pas une citrouille. Voilà mon enjeu, quel est le vôtre? Top, j'accepte, dit le grand seigneur. Si au coup de 4 heures la bouteille n'est pas là, je vous ferai couper la tête sans miséricorde, car je n'ai pas l'habitude de me laisser jouer, même par mes meilleurs amis. Par contre, si vous accomplissez votre promesse, vous pourrez prendre dans mon trésor autant d'or, d'argent, de perles et de pierres précieuses que l'homme le plus fort en pourra porter. Voilà qui est parlé, répondis-je. Je demandai une plume et de l'encre et j'écrivis à l'impératrice reine Marie-Thérèse le billet suivant. Votre majesté a sans doute, en sa qualité d'héritière universelle de l'Empire, hérité de la cave de son illustre père. Oserais-je la supplier de remettre au porteur une bouteille de ce tokai, dont j'ai bu si souvent avec feu son père, mais du meilleur car il s'agit d'un pari. Je saisis cette occasion pour assurer votre majesté du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc., etc., baron de Münchhausen. Comme il était déjà 3h05, je remis ce billet sans le cacheter à mon coureur qui détacha ses poids et se mit immédiatement en route pour Vienne. Cela fait, nous bûmes le grand seigneur et moi le reste de la bouteille en attendant celle de Marie-Thérèse. 3h15 sonnèrent, 3h30, 4h15 et le coureur ne revenait pas. J'avoue que je commençais à être assez mal à mon aise, d'autant plus que je voyais sa hôtesse diriger de temps en temps les yeux sur le cordon de la sonnette pour appeler le bourreau. Il m'accorda cependant la permission de descendre dans le jardin pour prendre un peu l'air, escorté toutefois de 2 muets qui ne me perdaient pas de vue. L'aiguille marquait la 55e minute après 3 heures. J'étais dans une angoisse mortelle, c'était le cas de le dire. J'envoyai chercher immédiatement mon écouteur et mon tireur. Ils arrivèrent aussitôt. Mon écouteur se coucha à terre pour entendre si mon coureur ne venait pas. À mon grand désespoir, il m'annonça que le drôle se trouvait fort loin de là, profondément endormi et ronflant de tous ses poumons. À peine mon brave tireur eut-il appris cela, qu'il courut sur une terrasse élevée et, se dressant sur ses pointes pour mieux voir, s'écria « Sur mon âme, je le vois, le paresseux !» Il est couché au pied d'un chêne aux environs de Belgrade, avec la bouteille à côté de lui. Attendez, je vais le chatouiller un peu. En même temps, il ajusta sa carabine et envoya la charge en plein dans le feuillage de l'arbre. Une grêle de glands, de branches et de feuilles s'abattit sur le dormeur. Craignant d'avoir reposé trop longtemps, il reprit sa course avec une telle rapidité qu'il arriva au cabinet du sultan avec la bouteille de Tokaï et un billet autographe de Marie-Thérèse à 3h59 minutes et demie. Saisissant aussitôt la bouteille, le noble gourmet se mit à la déguster avec une indicible volupté. « Münchhausen, me dit-il, vous ne trouverez point mauvais que je garde ce flacon pour moi tout seul. Vous avez à Vienne plus de crédit que moi, et vous êtes plus à même d'en obtenir un second. » Là-dessus, il enferma la bouteille dans son armoire, mit la clé dans la poche de son pantalon, et sonna son trésorier. Quel ravissant tintement. « Il faut maintenant que je paye ma gageure, reprit-il. « Écoute, dit-il au trésorier, tu laisseras mon ami Münchhausen prendre dans mon trésor autant d'or, de perles et de pierres précieuses que l'homme le plus fort en pourra porter. Va !» Le trésorier s'inclina le nez jusqu'à terre devant son maître, qui me serra cordialement la main, et nous congédia tous deux. Vous pensez bien que je ne tardais pas une seconde à faire exécuter l'ordre que le sultan avait donné en ma faveur. J'envoyai chercher mon homme fort, qui apporta sa grosse corde de chanvre, et me rendit au trésor. Je vous assure que lorsque j'en sortis avec mon serviteur, il n'y restait plus grand-chose. Je courus incontinent avec mon butin au port où j'affrétais le plus grand bâtiment que je pus trouver, et je fis lever l'ancre, afin de mettre mon trésor en sûreté avant qu'il ne me survînt quelque désagrément. Ce que je craignais ne manqua pas d'arriver. Le trésorier, laissant ouverte la porte du trésor, il était assez superflu de la refermer, s'était rendu en toute hâte chez le grand seigneur et lui avait annoncé de quelle façon j'avais profité de sa libéralité. Sa hautesse en est restée tout abasourdie et s'était prise à se repentir de sa précipitation. Elle avait ordonné au grand amiral de me poursuivre avec toute la flotte et de me faire comprendre qu'elle n'avait point entendu la gageure de cette façon. Je n'avais que 2 milles d'avance, et lorsque je vis la flotte de guerre turque courir sur moi, toute voile dehors, j'avoue que ma tête, qui commençait à se raffermir sur mes épaules, se remit à branler plus fort que jamais. Mais mon souffleur était là. « Que votre excellence soit sans inquiétude, me dit-il. » Il se posta à l'arrière du bâtiment de façon à avoir une de ses narines dirigée vers la flotte turque et l'autre sur nos voiles. Puis il se mit à souffler avec une telle violence que la flotte fut refoulée dans le port avec bris de mâts, de cordages et d'agrès, et qu'en même temps mon navire atteignit en quelques heures les côtes d'Italie. Je ne tirai cependant pas grand profit de mon trésor, car malgré les affirmations contraires de M. le bibliothécaire Jagman de Weimar, la mendicité est si grande en Italie et la police si mal faite que je dus distribuer en aumône la plus grande partie de mon bien. Le reste me fut pris par des voleurs de grand chemin aux environs de Rome, sur le territoire de Lorette. Ces drôles ne se firent aucun scrupule de me dépouiller ainsi, car la millième partie de ce qu'ils me volèrent eût suffi à acheter à Rome une indulgence plénière pour toute la compagnie et ses descendants et arrière-descendants. Mais voici, messieurs, l'heure où j'ai l'habitude de m'aller coucher. Ainsi donc, bonne nuit !